environnement, c'est votre émission dédiée à la protection de dames nature. Mon environnement reçoit tous les mercredis dès 15h des acteurs qui œuvrent à la protection de la faune et de la flore.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de la voix du parlementaire. Bienvenue dans votre émission Mon Environnement. Mon Environnement est cette émission qui décrypte chaque semaine les grands enjeux écologiques et climatiques. Pour ce numéro du mercredi 19 novembre 2025, nous nous intéressons à un sujet crucial, le financement climatique dans un contexte où les effets du changement climatique s'intensifient, une question fondamentale se pose. Quelle est la place des ONG et des institutions parlementaires dans la mobilisation de ces financements? Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir des invités de marque. Ici du réseau Parlement du Climat, il s'agit de Lilia Chanaoui, de M. Namori Doumbouya et de M. Jonas Sagno. Avec eux, nous explorerons des mécanismes de financement existants, les opportunités à saisir, mais aussi des défis auxquels font face les acteurs engagés sur le terrain et dans les institutions. À la technique, Fode Camara, au micro pour la présentation, Sano Sekou et Suleymane Diallo. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de la voix du parlementaire. Je vous informe que Lilia Chanaoui, elle est la responsable du réseau au Parlement du Climat. Dans ses côtés, elle supervise la mise en œuvre du projet parlementaire pour le financement du climat et elle supervise les pays suivants: le Botswana, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, la Guinée, le Sénégal, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Vous avez également M. Namori Doumbouya. Lui, il est coordinateur régional chez le Parlement du climat. Il supervise la mise en œuvre du projet parlementaire pour le financement du climat en Côte d'Ivoire, au Djibouti, en Guinée et au Sénégal. Et enfin, M. Jonas Sagno, lui, il est coordinateur des politiques du projet parlementaire pour le financement climatique en Guinée, où il œuvre au renforcement des capacités législatives pour la promotion des énergies renouvelables et du financement climatique. Sans transition, bonsoir Suleymane Diallo.
Bonsoir Sekou Sano, bonsoir à nos fidèles invités.
Et bonsoir M. Jonas.
Bonsoir à tous et merci de l'opportunité que vous nous offrez pour participer à cette émission et pour parler de nos actions ici dans cette émission.
Madame Lilia Chanaoui, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous et comme l'a dit Jonas, un grand merci à vous pour l'invitation.
Voilà, et M. Doumbouya, bonsoir.
Bonsoir à vous, merci encore pour l'invitation.
Voilà, aimables auditeurs, je vous rappelle que Madame Lilia Chanaoui est du côté de la France et M. Doumbouya est du côté de la Côte d'Ivoire. Madame Lilia Chanaoui, pouvez-vous nous dire la mission principale du Parlement climat et son rôle dans la promotion des politiques climatiques au sein des parlements nationaux?
Oui, bien sûr. Donc le Climate Parliament, le Parlement du climat, on est une ONG. Et on est un réseau international de députés qui travaillent ensemble pour accélérer la transition vers les énergies vertes. Donc notre mission, elle est très simple, c'est aider les parlements à devenir des moteurs de la transition énergétique. Concrètement, comment on fait ça? On essaye de soutenir les parlementaires pour qu'ils puissent élaborer de meilleures lois qui aident à attirer les investissements dans les énergies propres, à orienter les budgets vers les investissements verts, et surtout on aide à mettre en relation les gouvernements, les législateurs avec des développeurs de projets et des investisseurs autour de projets crédibles.
Okay.
Donc actuellement, on travaille sur le projet qui s'appelle, comme vous l'avez mentionné, parlementaire pour le financement climatique, qui est soutenu par le Fonds vert pour le climat.
Okay.
Et que nous mettons actuellement en œuvre avec l'ONUDI dans 15 pays d'Afrique subsaharienne, dont la Guinée.
Okay.
Et donc on forme les parlementaires à comprendre les mécanismes de financement climatique, à analyser les risques et à créer un cadre législatif qui attire davantage l'investissement. Et en Guinée, on a le soutien du président du Conseil national de la transition, honorable président Kourouma.
Docteur Dansa Kourouma, ok.
C'est ça, oui. Et du président du comité de pilotage du projet, qui est l'honorable Alpha Abdoulaye Diallo.
Ok.
Donc grâce à leur soutien pour le projet,
okay.
on a des échanges très très productifs avec les députés, les membres du Conseil national de la transition en Guinée.
Alors, madame, je suis toujours avec vous. Selon vous, quelle est la place que doivent occuper les institutions parlementaires dans le dispositif global des financements climatiques internationaux?
Oui, alors justement, aujourd'hui, oui. les parlementaires et les acteurs non étatiques sont trop souvent maintenus à l'écart ou pas assez informés, pas assez impliqués dans les négociations internationales sur le climat. Et donc c'est ça que nous, on essaye de changer et de promouvoir, parce qu'ils ont un rôle crucial à jouer, les parlementaires. Donc on essaye de faciliter des espaces de dialogue formels où les parlementaires, ou la société civile,
okay.
ou les experts peuvent partager tous ensemble sur ces sujets, échanger sur ces sujets et surtout tenir les gouvernements responsables de la transparence qu'ils doivent au peuple que les parlementaires représentent. Parce que ce sont les parlementaires qui représentent leur... leurs circonscriptions, qui connaissent les réalités du terrain et qui sont en mesure de relayer les problématiques que rencontrent leurs concitoyens et les gens qui habitent dans leurs circonscriptions. Donc c'est vraiment important, pour avoir ce relais-là du terrain, de pouvoir écouter plus les parlementaires et de davantage relayer leur voix sur la scène internationale. Donc nous, ce qu'on essaye de faire au sein de ce projet, c'est de renforcer le rôle des parlementaires pour qu'ils puissent être impliqués dès la conception des projets,
okay.
pour que le suivi budgétaire que les parlementaires ont dans leur rôle et dans leur responsabilité soit davantage informé,
okay.
et pour qu'ils puissent davantage utiliser les mécanismes de redevabilité qui normalement sont les leurs et qui leur permettent d'exercer davantage leur contrôle de l'action du gouvernement, pour pouvoir essayer de flécher davantage d'investissements vers les énergies renouvelables.
Voilà, nous sommes toujours avec Madame Lilia Chanaoui. Suleiman.
Oui, justement, Sekou Sano, quelle est selon vous la place que doivent occuper les institutions parlementaires dans le dispositif global des financements climatiques internationaux, Madame Lilia?
Oui, donc comme je disais, les parlementaires, ils jouent un rôle qui est vraiment central dans la question du financement pour le climat, parce que c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui autorisent, qui ratifient les signatures des accords internationaux, c'est eux qui orientent les budgets, qui contrôlent l'action du gouvernement. Donc si on n'a pas un cadre législatif clair et des règles transparentes, les mécanismes internationaux, que ce soit la finance concessionnelle, que ce soit les prêts, les garanties, ne pourront pas se traduire en investissement au niveau national. Donc,
okay.
ce que peuvent faire les parlementaires, c'est aider à garantir trois choses. D'abord, la prévisibilité, en aidant à adopter des cadres réglementaires clairs qui donnent davantage de confiance aux investisseurs et aux entreprises qui voudraient venir en Guinée ou ailleurs pour développer des projets. La deuxième chose, c'est la stabilité, en assurant la continuité des politiques publiques en matière d'énergie et d'environnement.
Okay.
Et la troisième chose, c'est la transparence. Donc, en exerçant leur responsabilité de contrôle de l'action du gouvernement et la bonne gouvernance des fonds climatiques. C'est seulement en apportant ces trois choses-là qu'on pourra aider à réduire les risques. Okay. Et c'est seulement en réduisant les risques que les investisseurs vont venir et vont mettre leur argent, leur capital dans un pays. Et dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne avec lesquels on travaille, l'un des défis majeurs qu'on a, c'est la faiblesse du cadre institutionnel pour recevoir et gérer les financements. Donc là, les parlements, ils ont un rôle stratégique à jouer pour pouvoir rassurer les investisseurs, sécuriser les bailleurs et s'assurer aussi que l'argent qui est mis dans ces projets puisse aussi profiter aux populations.
Voilà, vous êtes à l'écoute de Madame Lilia Chanaoui. Je vous rappelle qu'elle est responsable du réseau Parlement du climat et dans ce rôle, elle supervise la mise en œuvre du projet parlementaire pour le financement du climat. Madame, restez à l'écoute. Nous sommes maintenant avec Monsieur Namori Doumbouya. Je vous rappelle également que Monsieur Namori Doumbouya est coordinateur régional chez Parlement climat. Bonsoir Monsieur Doumbouya.
Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation.
Voilà, merci de répondre à cette invitation. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis rencontrés par les pays africains pour accéder au financement climatique mondial?
Merci monsieur pour cette question. D'abord, je tiens à remercier le président du CNT, président Dansa Kuruma.
Merci.
Pour l'approche, l'accueil qu'il donne à ce projet-là.
Okay.
Sans également souligner les efforts et l'accompagnement qu'on a reçu des conseillers, notamment notre président Abdoulaye Diallo, qui est sur place et qui nous soutient pour cette initiative-là. Je tiens également à remercier l'accueil des Guinéens dernièrement pour notre événement qu'on a eu, qui a eu un grand succès. Mm-hmm. Et ceci ne serait pas possible sans l'accueil chaleureux du Parlement et aussi des Guinéens. Donc merci pour cela. Par rapport à votre question, oui, effectivement, les pays africains font face à plusieurs obstacles pour accéder au financement climatique malgré des besoins énormes.
Ouais.
Je vais élaborer sur les obstacles, mais aussi donner des indications pour expliquer comment est-ce qu'à travers cette initiative que nous avons en place en Guinée, nous essayons de dépasser ces barrières-là. D'abord, il y a la complexité des procédures. Pour accéder au fonds vert pour le climat ou à d'autres guichets, il faut des dossiers très techniques et solides, des études de faisabilité, des systèmes de suivi des émissions. Les pays africains n'ont pas encore les équipes et des données nécessaires pour montrer rapidement des projets bancables. Ensuite, il y a la perception des risques. Comme vous le savez bien, l'Afrique est souvent vue comme un continent risqué, ce qui surenchérit les coûts des capitaux. Les investisseurs demandent des garanties élevées, ce qui bloque de nombreux projets. Troisième défi, c'est, comme ma collègue l'a souligné, c'est la faiblesse de nos cadres nationaux. Les plans climatiques, les lois, les incitations fiscales ne sont pas nécessairement en place. Enfin, il y a également la lourdeur de la dette et l'espace budgétaire.
La dette, vous parlez des dettes. Quelle dette? Les dettes intérieures?
La dette des pays. Oui, exactement. Plusieurs pays sont très endettés et ont du mal à fournir la contrepartie nationale exigée par les bailleurs de fonds. Alors, ce sont des obstacles, mais lorsque nous avons des projets en place comme le nôtre qui donnent des moyens de trouver les projets, d'abord numéro un, de donner des capacités aux parlementaires pour faire face à certains obstacles, notamment budgétaires, contraintes et autres, ça nous donne une meilleure perspective vis-à-vis de ces obstacles. Merci.
Oui, toujours nous sommes avec vous, Monsieur Doumbouya.
Monsieur Doumbouya, comment les parlementaires peuvent-ils influencer l'orientation des budgets nationaux pour mieux intégrer la transition écologique?
Merci encore. Alors, les parlementaires ont un levier majeur, c'est le pouvoir budgétaire du pays. Ma collègue en a parlé, mais concrètement, ils peuvent conditionner le budget du pays. Lors de l'examen des lois de finances, ils peuvent proposer qu'une partie des dépenses soit consacrée aux énergies renouvelables afin d'avoir une adaptation résiliée pour la Guinée. Ils peuvent également permettre un budget vert avec un marquage climat des dépenses publiques afin de mesurer quelle part des budgets contribue vraiment à la transition écologique. Ils peuvent utiliser des commissions parlementaires, dont nous savons bien des finances, énergie et environnement, pour auditionner les ministères. Et enfin, ils peuvent jouer le rôle de législation et de contrôle afin d'adopter les lois climatiques ambitieuses, harmoniser les textes et les engagements internationaux et suivre la mise en œuvre sur le terrain.
Voilà. Merci, Monsieur Doumbouya, et restez toujours en direct dans cette émission. Mon environnement, c'est bien sur la voix du parlementaire, la 107.5 FM. Monsieur Jonas Sayo, vous êtes coordinateur du projet Parlement pour le financement climatique en Guinée. À ce titre, selon vous, quelles réformes institutionnelles ou législatives sont nécessaires pour faciliter la transparence et la bonne utilisation des fonds climatiques?
Encore une fois, merci M. Sano et M. Suleiman pour cette invitation. Et nous sommes très contents de participer à cette émission Mon Environnement de la Radio Parlementaire de Guinée, qui nous donne l'opportunité de parler des actions que nous menons ici en Guinée et à travers le monde.
Merci.
Donc, pour répondre à cette question capitale, tout d'abord, il faut dire que pour renforcer la transparence et la bonne utilisation des fonds climatiques en général et particulièrement en Guinée, des réformes institutionnelles et législatives s'imposent. Ces réformes devraient, à mon sens, ici s'articuler autour de 5 actions principales. Premièrement, il s'agit de mettre en place un cadre institutionnel clair et renforcer la gestion des fonds climatiques avec une répartition précise des responsabilités entre les ministères sectoriels concernés. En Guinée, je veux parler bien sûr des ministères de l'énergie, de l'environnement, des finances, mais également et des agences de mise en œuvre. Action numéro 2, il s'agit également de renforcer les capacités des entités nationales accréditées à gérer, à suivre et à rendre compte des flux financiers climatiques, notamment à travers des systèmes de mesures de notification, mais également de vérification robuste, appuyés par des outils numériques de traçabilité des fonds. Et troisième action, il s'agit là donc d'adopter une législation dédiée à la transparence et à la redevabilité. Par exemple, une loi cadre sur le financement climatique incluant la publication périodique des rapports publics, des audits indépendants et des mécanismes de reddition des comptes. Quatre, il faut également institutionnaliser le mécanisme parlementaire de suivi budgétaire vert permettant au Parlement guinéen d'assurer un contrôle permanent sur la planification, l'allocation et l'exécution l'exécution des ressources climatiques. Et enfin, cinquième action, il s'agit donc de promouvoir une gouvernance participative inclusive intégrant la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers dans le processus décisionnel. Donc l'ensemble de ces actions permettront donc de garantir une gestion plus transparente, de réduire les chevauchements, mais surtout de renforcer la confiance des partenaires techniques au développement dans la gouvernance climatique du pays.
Voilà, Monsieur Jonas, je vais prendre Madame Lilia Chanaoui. Madame, vous êtes là?
Je suis là.
Voilà, dites-nous, comment le Parlement climat contribue-t-il à renforcer la collaboration entre les parlementaires et les acteurs non étatiques, notamment les ONG et surtout engagés pour le climat?
Alors, de façon très concrète, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des ateliers. Donc, par exemple, je ne suis pas la meilleure pour en parler sur cette question, mais on a organisé un atelier national en Guinée le 22 octobre. Donc moi, je n'étais pas sur place, mais mes collègues Jonas et Namori étaient sur place, donc ils vont peut-être pouvoir compléter et expliquer un peu quelles ont été les principales conclusions de l'atelier.
Okay.
Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'organiser des espaces de dialogue entre la société civile, les parlementaires, les législateurs, mais aussi les développeurs de projets. Et les investisseurs qui, eux, ont le capital financier pour pouvoir créer des projets concrètement. Parce que d'un côté, ce sont les parlementaires qui votent et qui peuvent mettre en place les lois qui vont faciliter l'implantation de ces projets.
Okay.
Mais de l'autre côté, c'est vraiment le secteur privé qui a l'argent, qui a le capital et qui a l'expertise disponible pour pouvoir mettre en place des projets concrets. Donc l'idée, c'est qu'on puisse faire dialoguer ensemble tous ces acteurs pour pouvoir aboutir à des projets concrets. Donc voilà, on essaye de mettre en place des espaces de discussion comme ça. On produit également des échanges entre différents pays pour qu'ils puissent s'inspirer les uns des autres, que ce soit dans la même région ou même au niveau international. Je pense qu'on en parlera un peu après par rapport à l'événement qu'on a organisé à Rio. Il y a une composante renforcement des capacités très importante qui nous permet d'aider les parlementaires à gagner en connaissance sur tout ce qui concerne les énergies, parce que c'est vrai que les parlementaires doivent être des généralistes par définition. Ils doivent s'intéresser à un très grand nombre de sujets, ils doivent voter des lois qui concernent des sujets totalement différents les uns des autres, donc ils peuvent pas être experts en tout à la fois. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de renforcer leur capacité sur les questions énergétiques et environnementales, pour leur donner le maximum d'instruments et d'outils pour qu'ils puissent ensuite voter des lois et des cadres qui pourront améliorer la situation et attirer davantage d'investissements. Donc je ne sais pas si Namori, tu voudrais compléter par rapport spécifiquement à l'atelier qu'on a eu en Guinée.
Oui, Jonas aussi a quelque chose à dire sur le plan local, oui. Oui, monsieur Namori.
Oui, oui.
Vous pouvez ajouter quelque chose à ce que vient de dire madame Lydia?
Bien sûr. Donc, l'atelier a été une opportunité pour nous de rencontrer les conseillers qui font partie de notre initiative. Okay. Ça a été l'occasion de rencontrer d'autres conseillers également qui peuvent être potentiellement intéressés. Mm-hmm. Et même pour aller plus loin, ça nous a donné également l'opportunité de rencontrer des climato-sceptiques. Qui sont à la fin de l'atelier, qui se sont rendus compte qu'effectivement le climat est quelque chose d'important à gérer et notre initiative reste importante. Donc c'est vrai que c'est un début, il y a plusieurs ateliers à mener, plusieurs sujets à voir, notamment on a eu de longues discussions par rapport aux exemptions fiscaux sur les produits solaires. On a, à titre comparatif, on a regardé un peu les autres pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui eux ont pris des actions très claires par rapport à ces exemptions-là. Et se poser la question, pourquoi est-ce que c'est pas le cas pour la Guinée? Et à travers cet échange, où nous avons eu des spécialistes, notamment Dr Massara, qui est au niveau du Parlement, qui a incité la discussion et qui nous a envoyé vers les étapes qui seront à suivre pour pouvoir mettre ça en place. Alors, en gros, c'était de belles rencontres, de belles connaissances, de beaux échanges et également des actes très concrets à suivre. Parce que, comme vous le savez bien, deux fois, on fait ces ateliers-là et il n'y a pas de suivi derrière. Okay. Ça ne sera pas le cas pour nos rencontres, car nous essayons de mettre en place des sujets qui nous permet d'avoir un suivi très clair.
Donc, ça ne sera pas des projets de fait de pas, il y aura des suivis.
Je pense que la prochaine question, je pourrais...
Monsieur Jonas aussi va compléter ce qui vient de... Vous avez écouté Madame Lydia et Monsieur Namori, Monsieur Jonas. Comment concrètement collaborent-ils les ONG locales ou internationales pour renforcer l'impact des actions climatiques sur le terrain?
Okay, encore une fois, merci M. Sekou pour cette question. Comme disaient mes collègues, Climate Parliament ou le Parlement du Climat collabore étroitement avec les ONG nationales et internationales pour renforcer l'impact des actions climatiques sur le terrain.
Okay.
Et à cet effet, nous organisons généralement des événements, des ateliers, comme ce fut le cas le 22 octobre dernier, où nous avons pu réunir parlementaires, décideurs politiques, également aussi secteur privé et bailleurs de fonds autour de la question sur les zones d'énergie verte, et ça nous a permis d'avoir une vision diversifiée des différents acteurs concernant cette question de financement climatique. Également aussi, il faut aussi noter que le Parlement du Climat soutient la mise en œuvre de cadres législatifs et politiques favorables aux actions climatiques en apportant un appui technique aux parlementaires en lien avec des ONG qui apportent l'expertise, la mobilisation communautaire, mais également le suivi des projets. Ensuite, également, nous collaborons étroitement avec des ONG pour assurer également la transparence, la relevabilité, mais également l'intégration des voix des communautés locales dans les interventions financées, maximisant ainsi l'impact durable sur le terrain. Donc, nous pouvons dire qu'en somme, que le Parlement du Climat agit comme interface entre législateurs et la société civile, mais également les décideurs politiques, en vue de pouvoir créer un cadre qui favorise l'engagement public vers le climat, mais également qui crée des conditions favorables à l'investissement financier pour des solutions vertes en République de Guinée.
Oui, Suleiman, nous sommes toujours avec M. Jonas Sagnou.
Oui, M. Jonas Sagnou, les ONG jouent souvent un rôle de veille et de plaidoyer. Comment ce partenariat peut-il mieux structurer pour influencer les décisions politiques en matière de climat?
Merci Suleiman pour cette autre question très très importante. Pour mieux structurer le partenariat entre les ONG et les acteurs politiques afin d'influencer efficacement les décisions en matière de climat, plusieurs leviers peuvent être mis en œuvre ou activés. Donc le premier levier, il s'agit là d'institutionnaliser la collaboration par la création de plateformes ou comités consultatifs mixtes où ONG, parlementaires et gouvernement travaillent étroitement ensemble, assurant ainsi un dialogue continu et structuré. Deuxièmement, il faut aussi renforcer les capacités des ONG en formation sur les processus législatifs et politiques, ainsi que sur la communication stratégique pour leur plaidoyer soit mieux ciblé et compris par les décideurs. Également, il faut mettre en place des mécanismes transparents de partage de données, d'évaluation d'impact et de suivi des politiques climatiques, facilitant la veille citoyenne et le plaidoyer fondé sur les preuves robustes. Également, encourager la co-construction de propositions législatives avec l'appui technique des ONG, intégrant la réalité locale, les besoins des communautés, ce qui renforce la pertinence et l'adoption des mesures. Enfin, le Parlement peut également créer un cadre consultatif permanent ONG-Parlement permettant aux organisations de formuler des avis techniques et de suivre les engagements budgétaires. Donc ce dialogue, une fois que renforcé, va garantir une gouvernance climatique plus inclusive et crédible entre les organisations.
Alors, Monsieur Namori, Monsieur Namori est là?
Je suis à
l'écoute. Voilà, dans vos explications, vous avez parlé de collaboration avec les ONG locales ou internationales. Alors, dites-nous, existe-t-il des exemples de bonnes pratiques où les ONG et les parlements ont conjointement réussi à mobiliser ou orienter des financements climatiques? Si oui, parlez-nous-en.
Bien sûr, je pense que ma collègue est mieux placée pour vous répondre.
Ok.
Mais notamment, donc le GCF ask au sein de ce projet dans lequel nous sommes, mm-hmm. avant de donner la parole à ma collègue, c'est okay. le Readiness Fund. D'accord. Donc, on entend souvent, et moi-même avant de joindre le Parlement du climat, okay. que les pays n'arrivent que ces fonds-là qui sont disponibles ne sont pas disponibles nécessairement aux pays africains.
Hein. Okay,
okay. Et pour d'une partie, c'est une réalité, mais de l'autre aussi, c'est que les pays en question n'ont pas les capacités pour avoir accès. Et donc, ce projet en question du GCF permet aux pays de se préparer
okay, hein, okay.
Pour pouvoir justement avoir accès à ces projets-là. Okay. Donc, je vais laisser à ces fonds-là.
Okay.
Je vais laisser la parole à Lilia qui oui. va pouvoir nous donner des exemples concrets.
Merci. Oui, Madame Lilia, la question vous revient également.
Oui, oui, merci beaucoup, monsieur. Et donc, pour parler d'exemples concrets où on a eu des succès ou des bonnes pratiques où les parlementaires ont permis de mobiliser et d'orienter des financements vers les énergies renouvelables.
Oui.
Je peux par exemple parler de l'exemple de l'Inde où nous avons un réseau de parlementaires très actifs et très engagés.
Okay.
Et les députés de notre réseau ont, à force d'avoir des réunions avec...
You can't believe.
Allô?
Namori.
Namori.
Oui.
Oui, madame, continuez.
Oui, je disais donc, à force d'insister, ils ont eu beaucoup de réunions avec le Premier ministre de l'Inde. Et ça leur a permis d'augmenter le budget du ministère des énergies renouvelables de 1%, ce qui peut paraître peu comme ça, mais ça a permis de quadrupler le budget qui était alloué aux énergies renouvelables. Et ça, c'est vraiment parce que les parlementaires ont fait ce travail de lobbying et sont allés voir le Premier ministre pour obtenir cette augmentation du budget. Un autre exemple que je peux prendre, c'est en Tanzanie.
Okay.
Après un travail conjoint du Parlement du climat et de plusieurs députés tanzaniens,
okay.
les parlementaires ont poussé pour l'adoption d'exemptions fiscales pour tout ce qui concerne les technologies de production d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, tout ce qui est panneaux solaires et autres équipements permettant de produire de l'énergie propre, lorsqu'ils étaient importés en Tanzanie, étaient totalement exemptés de frais de douane ou alors de TVA, par exemple. Et ça a permis de drastiquement réduire le coût des panneaux solaires pour le consommateur final, puisqu'il y avait beaucoup moins de taxes prélevées par l'État. Ce qui a fait que beaucoup de développeurs de projets sont venus s'implanter en Tanzanie en construisant des centrales solaires. Beaucoup de particuliers même ont pu faire l'acquisition de panneaux solaires pour s'alimenter eux-mêmes en énergie propre, parce que ça a permis de faire baisser le coût pour le consommateur. Et ça, c'est vraiment aussi grâce à une initiative purement parlementaire.
Voilà, la question à Namori, oui, Suleiman.
Oui, monsieur Namori, quels sont les axes prioritaires de climat parlement en Afrique de l'Ouest pour les 5 prochaines années?
Merci pour la question. C'est une question qui me tient vraiment à cœur.
Ok.
J'aimerais expliquer pourquoi. En Afrique de l'Ouest, le Parlement du climat se concentre sur quelques priorités très clair pour les prochaines années.
Okay.
Comme j'ai eu à vous expliquer tantôt, mobiliser les financements climatiques à grande échelle reste un défi énorme pour nos pays. Et donc, avec ce projet qui est en cours, nous pouvons, avec le soutien du Fonds vert, arriver à potentiellement débloquer des fonds pour plusieurs pays. Et il faut bien souligner que On n'est pas qu'en Afrique de l'Ouest, mais on a aussi 15 pays qui font partie de cette initiative. Donc voilà. Par la suite, et pourquoi ça reste important, c'est parce que ça permet aux députés, donc pour des pays qui ont un parlement en place, de pouvoir mettre en place des solutions pour leur circonscription électorale. Donc, c'est un levier supplémentaire pour les parlementaires. Deuxièmement, c'est important d'accélérer l'accès à une énergie propre et abordable pour les populations. Notamment quand on parle de la cuisson propre et aussi des mini-réseaux, mais pas que, car il y a des solutions où je vais pouvoir en parler un peu plus, des kits solaires que vous avez déjà vu qui se distribuent dans les communautés rurales. Notre initiative peut débloquer plus de ces installations-là, de ces solutions qui sont disponibles. Enfin, et c'est vraiment l'axe que je trouve tout aussi important, c'est le plaidoyer régional. C'est important que nous arrivons à discuter avec une voix commune côté régional pour arriver à améliorer la situation de nos populations. Et donc là, je peux donner un exemple où nous sommes déjà en train de voir avec l'écrit au sein de la CDAO afin de voir quels sont les mécanismes qu'ils ont déjà en place que des parlementaires peuvent utiliser pour, par exemple, donner de l'accès propre à l'énergie propre au Parlement, hein, pour qu'on arrive à voir un exemple sortant du bâtiment même du Parlement. Donc, on a une belle prospection pour les 5 prochaines années. Une prospection par pays, bien sûr, mais aussi régionale, dont nous avons vraiment hâte de voir réaliser. Merci.
Voilà, Madame Lilia, tout récemment, une pré-COP s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 2 au 4 novembre dernier, un sommet parlementaire sur l'investissement vert, dit jeune d'énergie verte, pour des opportunités économiques dans un monde qui se réchauffe. L'événement a été organisé par le Parlement Climat et l'ONIDI. Dites-nous, quel est l'objectif de la tenue de cet événement ?
Alors, l'objectif de cet événement, c'était d'une part rassembler les parlementaires de l'ensemble de notre réseau, parce que quelque chose qui nous tient à cœur, c'est organiser le plus possible des événements où les législateurs peuvent échanger des bonnes pratiques, parler de ce qu'ils font aux autres pour qu'ils puissent s'inspirer les uns les autres. Et aujourd'hui, le problème dans les COP et dans les négociations internationales en général, c'est que les parlements sont trop souvent à l'écart des négociations. Souvent, c'est les gouvernements qui négocient entre eux, mais les parlementaires ne sont pas assez impliqués. Donc pour nous, c'est important d'avoir un sommet parlementaire, où vraiment on met les parlementaires au centre du processus de décision. Et les COP sont un peu vues comme des rendez-vous diplomatiques où on décide des choses qui ne sont pas ensuite forcément mises en œuvre. Mais pourtant, les COP, ce sont des réunions où on prend des engagements politiques que les États doivent ensuite traduire dans leur loi nationale. Et c'est bien évidemment le Parlement qui est responsable de ça, de traduire les engagements internationaux dans la loi nationale. Donc c'est pour mettre en œuvre les engagements qui sont pris au cours des COP que les députés doivent s'assurer que les contributions déterminées au niveau national, ce qu'on appelle les CDN, c'est les engagements des pays en matière d'environnement, c'est les députés qui sont responsables de vérifier que les dispositions nécessaires soient intégrées dans les différentes lois sectorielles, que ce soit énergie, agriculture, industrie, fiscalité, Donc on en a parlé, hein, c'est les parlementaires qui peuvent aussi adopter les budgets qui permettent de réellement financer ces engagements.
Alors madame, quelle perspective économique les jeunes d'énergie verte offrent-elles aux pays confrontés aux effets du réchauffement climatique ?
Oui, alors la logique des zones d'énergie verte, c'est un peu sur le modèle des zones économiques spéciales ou des zones franches. C'est des zones géographiques bien délimitées où on veut attirer une grande concentration d'investissements verts. Donc leur logique, c'est que on met en place dans une zone spécifique toutes les conditions nécessaires pour pouvoir attirer davantage d'investissements privés.
Okay.
Parce que les gouvernements, les banques de développement, les institutions internationales, elles n'ont pas toutes seules les ressources suffisantes pour transformer les systèmes énergétiques des différents pays. En revanche, le secteur privé, c'est lui qui dispose du capital et de l'argent nécessaire pour pouvoir mobiliser des montants très importants. Mais le secteur privé, pour pouvoir investir dans un pays, il a besoin de certaines conditions comme un environnement stable, prévisible, sécurisé. Donc le fait d'avoir des zones d'énergie verte et d'avoir une approche zonale, ça permet précisément d'offrir ces conditions, d'offrir des garanties, des réglementations claires, des mécanismes de réduction des risques dans ces zones avec des incitations fiscales ciblées. Donc voilà l'intérêt d'avoir une approche zonale.
Alors, Monsieur Jonas, nous venons avec vous. En quoi le sommet parlementaire sur l'investissement vert organisé en marge de la Pré-COP contribue-t-il à accélérer les politiques d'énergie propre?
Okay, merci, Monsieur Sano, pour cette question.
Okay.
Effectivement, ce sommet organisé à Rio, qui était un événement pré-COP organisé par le Parlement du climat et l'ONUDI sur le financement du Fonds vert pour le climat, a donc offert une plateforme politique de haut niveau où parlementaires africains ont échangé directement avec les bailleurs et investisseurs sur les réformes législatives nécessaires à l'investissement vert. Ce forum donc a permis de renforcer la coopération sud-sud et poser les bases d'un cadre parlementaire africain pour la transition énergétique dont la Guinée est un acteur moteur. Il faut aussi noter que, en plus de ce que disait ma collègue Lilia, ce sommet a aussi aidé à créer une convergence politique et où il y a eu des échanges de bonnes pratiques, des engagements parlementaires concrets, un dialogue direct avec les investisseurs, mais également il a permis d'aligner les législations nationales sur des critères d'investissement et de co-concevoir des instruments financiers.
Oui, Monsieur Namori.
Oui, oui, justement, quel rôle le Parlement du climat et l'ONU jouent-ils dans la promotion de projets d'investissement vert à l'échelle internationale?
Merci beaucoup pour cette question. Le Parlement du climat mobilise et forme les législateurs. On en a mentionné. C'est également renforce les capacités et organise des ateliers de renforcement des capacités, des dialogues avec le secteur privé, des développeurs du projet, des investisseurs et d'autres organismes. L'ONUDI apporte son expertise technique, appui à la structuration des projets et sert en tant qu'interlocuteur pour le gouvernement. Mais c'est important de souligner que ça ne s'arrête pas là. On compte beaucoup sur l'expertise locale, qui a été mentionné pendant notre atelier, par exemple. On a eu à avoir la présentation des membres du Parlement pour nous constituer la législation en place par rapport aux énergies renouvelables. Aussi, on a eu à faire appel à les représentants du secteur privé, notamment dans l'accès de l'énergie renouvelable en Guinée. Donc, c'est important de souligner que nous ne travaillons pas seuls en tant que qu'entité internationale, mais nous aussi faisons appel aux experts locaux, car c'est eux qui ont l'expertise sur place et nous, nous venons simplement en renforcement et pour diriger l'axe nécessaire afin de débloquer les fonds.
Voilà, merci. Madame Lilia, selon vous, les conclusions de cette pré-COP de Rio de Janeiro peuvent-elles aider les États à attirer davantage les financements verts?
Oui, tout à fait. Donc, juste pour remettre rapidement dans son contexte, donc pour ce sommet à Rio, on a eu plus de 25 pays représentés, dont 3 membres guinéens du Conseil national de la transition, okay, ainsi qu'un représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Mamadou Ouribari, que je profite d'ailleurs pour le remercier aussi de son soutien constant au projet.
Okay.
Et donc lui, il est le point focal du Fonds vert pour le climat en Guinée. Donc ce sommet à Rio, il nous a permis d'aider les députés à développer des feuilles de route parlementaires claires avec un plan d'action à suivre une fois de retour dans leur parlement. Les discussions, elles ont aussi mis en lumière plusieurs réformes prioritaires pour pouvoir renforcer la confiance des bailleurs. Notamment l'introduction de lignes budgétaires dédiées aux énergies renouvelables, donc sur le modèle de l'Inde, avec la réallocation progressive des subventions fossiles vers des subventions pour les énergies renouvelables, ou encore l'amélioration des cadres législatifs, comme au Sénégal par exemple, où la nouvelle loi climat intégrera désormais les zones d'énergie verte. Donc ce type de signaux politiques qui montrent un engagement clair et structurel, ça donne vraiment de la confiance aux investisseurs et c'est vraiment quelque chose qui a émergé de l'échange de bonnes pratiques entre députés de plusieurs pays différents. Un autre apport majeur du sommet, c'est l'accent mis sur les mécanismes de réduction des risques, comme les garanties publiques, les instruments de couverture du risque de change. On avait présent à Rio une représentante de la Banque mondiale et plus spécifiquement de l'agence de la Banque mondiale qui est chargée d'apporter des garanties pour les projets. Donc on a pu évoquer ce sujet avec elle. Et enfin, Rio a aussi permis d'identifier des opportunités de projets prioritaires dans les pays représentés et de les mettre directement en relation avec des investisseurs qui sont capables de les financer. Donc on espère qu'il y a des initiatives concrètes qui pourront aboutir grâce à ce sommet.
Alors, Madame Lilia, pour terminer avec vous et en une minute, parce que nous sommes bousculés par le temps, comment envisagez-vous le rôle des parlements nationaux dans la mise en œuvre des engagements ici, des conférences internationales sur le climat comme la COP30 qui tire vers sa fin?
Oui, merci. C'est pour moi la question?
Oui, c'est pour vous et la dernière, en une minute, puisque le temps fait défaut.
En une minute, comme l'ont évoqué mes collègues, c'est vraiment les députés qui sont chargés de traduire les engagements pris au niveau international au niveau national.
Okay.
Donc le but, ce sera d'accompagner les députés guinéens, les membres du Conseil national de la transition, dans la traduction concrète des engagements internationaux pris par la Guinée, pour que ça puisse aboutir à des investissements privés dans les zones d'énergie verte en Guinée, ainsi qu'à des projets concrets qui pourront permettre également d'améliorer le développement économique et social des zones en question et des populations et des communautés locales dans lesquelles seront mis en œuvre ces projets.
Voilà, et Monsieur Doumbouya, vous également, pour terminer, quelles innovations ou partenariats ont émergé lors de ces sommets parlementaires et qui pourraient transformer la gestion des zones d'énergie verte dans les prochaines années?
Merci beaucoup. Je pense que c'est important de souligner les inventions et partenariats, d'accord, mais aussi c'est important de relier ça à ce que peut bénéficier la Guinée. Donc, première innovation, On regarde une gouvernance entièrement intégrée. Mm-hmm. Donc le projet a vu naître des plateformes réunissant plusieurs entités, notamment les parlementaires, les ministères, les investisseurs et des partenaires techniques comme le NIDI qu'on souhaite remercier à travers son représentant qui malheureusement n'était pas sur place, mais je tiens à le remercier, Monsieur Alpha Diallo. Donc cette approche permet un dialogue multisectoriel. Deuxième innovation, de nouveaux outils pour rendre les projets bancables. Nous avons souligné la difficulté, mais en se réunissant, on peut trouver des projets qu'on peut remonter directement et plus rapidement au fonds vert. Donc, il faut dire que pendant les présentations, on a pu entendre des projets et dans la salle, on voit les investisseurs qui sont intéressés et ça permet un networking ou des échanges par la suite plus approfondis. Troisième avancée, c'est on constate qu'il y a des solutions qui sont déjà disponibles, des solutions vertes qu'on peut déployer et en attendant par exemple l'accès du réseau, on peut donner une lumière, une ampoule, deux ampoules, même une télévision à ceux qui n'ont pas nécessairement accès en utilisant l'énergie verte.
Voilà, merci Monsieur Doumbouya. Nous sommes pris par le temps, malheureusement, merci. La radio c'est l'heure. Voilà, on va réserver une minute merci. Également à Monsieur Jonas pour terminer. Voilà, Suleiman.
Oui, justement, rapidement. Nous sommes à la fin. Monsieur Jonas, quel message adressez-vous aux jeunes leaders, aux élus locaux et aux acteurs de la société civile qui souhaitent s'impliquer dans la gouvernance climatique et le financement vert?
Merci Suleiman pour cette question. Mon message et notre message, nous en tant que Parlement du climat, notre message est simple et clair. Donc le climat est l'affaire de tous et la transition énergétique est une immense opportunité pour la Guinée, pour ses jeunes, pour ses collectivités et pour les jeunes et pour les ONG. Ça veut dire que nous, les jeunes leaders, élus locaux et acteurs de la société civile doivent s'approprier de la transition énergétique, mais également innover localement et s'unir pour faire pression en faveur des politiques publiques vertes, plus justes et plus inclusives. Ensuite, ils doivent s'engager, s'informer, rejoindre les plateformes nationales de gouvernance climatique, demander des comptes aux élus et exiger des propositions concrètes, des projets locaux, des budgets verts. Cela est essentiel pour que cette transition devienne un levier de développement économique et social. Enfin, la Guinée, en tant qu'un pays très riche en ressources énergétiques, avec une jeunesse dynamique, a besoin d'une génération engagée pour bâtir un avenir durable, créatrice d'emplois, porteuse de justice environnementale.
Voilà, aimables auditeurs, ainsi s'achève cette édition Mon Environnement consacrée au financement climatique et au rôle déterminant des ONG et des institutions parlementaires. Nos échanges avec Lilia Chanaoui, Namori Doumbouya et Jonas Sagno du Parlement Climat ont permis de mieux comprendre les enjeux, les mécanismes et les perspectives d'action pour renforcer la résilience de nos communautés. Merci à nos chers invités pour leurs éclairages et merci à vous qui nous suivez chaque semaine. Restez connectés pour d'autres émissions dédiées à la protection de notre planète et à l'avenir de nos territoires. À la technique Fodé Camara, au micro pour la présentation Sano Sekou, Suleiman Diallo, à très bientôt dans Mon Environnement. Au revoir.
Environnement, c'est votre émission dédiée à la protection de Dame Nature. Mon Environnement reçoit tous les mercredis dès 15h des acteurs qui œuvrent à la protection de la faune et de la flore.